J'aimerais pour ce temps prendre un passage de l'Évangile. Un passage qui est bien connu, en tout cas en partie, puisqu'il y a un verset star dedans, vous le reconnaîtrez. C'est au chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Si vous avez une Bible, vous pouvez chercher dans votre Bible si vous le souhaitez, sinon vous pouvez le prendre. Comme vous préférez. Évangile selon Jean, au chapitre 3.
Jésus lui répondit : Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui demanda : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ? Jésus lui répondit : Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit : Il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit : Comment cela peut-il advenir ? Jésus lui répondit : C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela ? Amen, amen, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Ce texte contient une explication claire de ce qu'est le salut. Et il y a ce verset 16 qui est largement connu, très utile pour saisir ce qu'est le salut et le moyen d'y accéder. Mais ce texte n'est pas seulement cela. On retient ce que Jésus dit sur le salut et ce qu'il dit au monde, ce qu'il nous dit à nous aussi, lecteurs tardif de l'Évangile. Mais c'est avant tout à Nicodème que Jésus s'adresse à ce moment-là. Parce que ce texte n'est pas seulement un discours, avant d'être un discours, c'est une rencontre. La rencontre de Jésus et de Nicodème. Qui est Nicodème ? Prenons le temps de faire connaissance avec lui. Le texte nous dit, nous le présente, c'est un pharisien et un chef des Juifs. Un pharisien. Les lecteurs du Nouveau Testament ont peut-être un a priori négatif sur les pharisiens. On voit Jésus s'accrocher avec eux de façon assez violente, hein, au fur et à mesure de son ministère, de plus en plus, et ils ne sont pas pour rien dans sa crucifixion. Un pharisien, c'est quelqu'un qui est particulièrement attaché à l'étude et à la mise en pratique de la loi de Moïse et de la tradition des ancêtres. C'est quelqu'un qui pousse très loin l'application de cette loi, qui cherche à appliquer les règles de pureté, celles qui sont généralement réservées aux prêtres, qui cherche à les appliquer dans sa vie quotidienne. Il a une haute exigence, il a mis la barre haut pour être fidèle. Et du coup, ils avaient une certaine influence au sein de la population, à cause de leur bonne connaissance de la loi, à cause de leur rigueur morale. Et ceux qui vivent avec eux ont un a priori positif sur eux. Vous voyez que c'est plutôt des gens bien. Nicodème est aussi chef des Juifs, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui a de l'influence dans sa communauté. Voilà un peu pour ce qu'il est. Mais en plus de ça, je pense qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui a une certaine honnêteté intellectuelle. On le retrouve ailleurs dans l'évangile de Jean. Ce n'est pas forcément là que ça paraît de façon la plus claire, mais on le retrouve ailleurs dans l'évangile de Jean. Et il semble que c'était quelqu'un qui ne s'en tient pas aux postures qu'on devrait adopter quand on est dans tel ou tel camp. Il ne va pas se positionner en fonction de qui il est, avec qui il est, mais il aime écouter les gens pour savoir ce qu'ils ont à dire. Ils aiment les écouter pour se faire un avis sur eux. Et on trouve ça plus loin au chapitre 12, dans une situation compliquée où il aimerait que le groupe écoute Jésus plutôt que de le juger. Donc c'est lui qui s'approche de Jésus pour se faire une idée, pour l'écouter. Qui vient-il rencontrer ? Jésus, on le connaît tellement bien qu'on mélange peut-être un peu la chronologie. Là, on est au début de son ministère dans l'évangile de Jean, au début de ce qu'il fait sur terre. Dans les épisodes précédents, il vient d'appeler ses premiers disciples. Il y a eu le premier miracle des noces de Cana. Et ensuite, il est monté à Jérusalem pour la Pâque et là, en voyant le temple, il a chassé les marchands. Ça fait du bruit. Et cette suite d'événements, cette séquence, se termine par une conclusion qu'ajoute l'évangéliste, où il écrit « Pendant qu'il était à Jérusalem, beaucoup mirent leur foi en son nom à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qui était l'homme. » Voilà. On est au début du ministère, il suscite un certain enthousiasme avec des gens qui expriment cet enthousiasme, qui veulent le vivre, et Jésus est prudent par rapport à ça, il ne se laisse pas griser, parce qu'il sait ce que ça vaut. Et au milieu de ce mouvement plutôt positif et sans doute un peu superficiel, il y a cet homme, Nicodème, qui vient, qui se déplace pour en savoir plus. L'attitude est chouette, je trouve. On nous dit qu'il vient de nuit. C'est un détail qui nous est rapporté. Certains pensent que c'est pour rester discret, pour ne pas trop être vu avec un enseignant subversif, au moins controversé. Mais moi, je préfère cette explication de ce que les maîtres juifs aimaient, la discussion nocturne et le travail de nuit. La nuit, c'est un bon moment pour parler théologie. La semaine dernière, avant le barbe-culte qu'on avait à la Sagnole, la soirée avançait et je me suis retrouvé de nuit avec un prédicateur de l'Église et on a parlé théologie. On a parlé du mystère de l'incarnation, de comment Jésus peut être à la fois Dieu et homme. La nuit, c'est un bon moment pour discuter. Et je pense que c'est pour ça que Nicodème choisit ce moment. Par contre, Nicodème est très prudent, je trouve, dans son approche. Il ne se mouille pas. C'est intéressant de voir comment il aborde Jésus. Il lui fait des compliments. Il l'appelle maître, ça fait toujours bien. Tu es un maître venu de la part de Dieu. Ça, sans doute, c'est pour mettre son interlocuteur, Jésus, dans de bonnes dispositions. Et en même temps, il ne se mouille pas trop. Il ne lui donne pas de statut spécial. C'est un maître venu de Dieu, certes, mais pas le maître. C'est un parmi d'autres, lesquels on ne sait pas. Enfin, voilà, ça présente bien sans s'engager. Il parle aussi à la première personne du pluriel. Nous savons, nous avons vu. Comme s'il était représentant d'un groupe plus grand, en tout cas, il ne vient pas à son titre propre. Comme s'il était envoyé, comme s'il allait rapporter, en discuter avec les gens avec lesquels il est. Il relève le concret, les signes que tu produis. Et il ne pose pas de questions. Ça m'a étonné en relisant cette introduction de Nicodème. Il ne pose pas de questions. Juste, nous savons que tu es quelqu'un venu de Dieu. Donc il vient vers Jésus avec une curiosité, mais une certaine distance. Il veut en savoir plus pour comprendre et se faire une idée tranquillement, sans trop s'investir. Et Jésus va le réorienter. Il va aller le chercher, il va aller créer un inconfort pour l'amener plus loin. Il va l'emmener dans la vérité d'une rencontre, vers un positionnement personnel. Il ne répond pas à sa question, d'ailleurs il n'y a pas de question. J'ai l'impression un peu d'assister à une partie d'échec où on avance ses pièces prudemment en espérant que l'autre se dévoile. Et du coup, Jésus va lancer le thème qu'il veut aborder. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Nicodème voulait parler de Jésus, peut-être de son enseignement, d'où provenait cet enseignement, de l'autorité que Jésus avait pour le dispenser. Jésus met Nicodème au pied du mur. Tous ne peuvent pas voir le règne de Dieu. Seuls ceux qui ont une nouvelle naissance le peuvent. Et du coup, ça interroge. Nicodème est-il dans ce cas? Peut-il voir le règne de Dieu, lui, le religieux zélé? Deuxième réplique, Nicodème répond. Il continue avec une certaine distance. Naître de nouveau, mais comment est-ce possible? Comment rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère pour en ressortir? Il prend un peu par l'humour, par la dérision, toujours une certaine distance. La partie d'échec continue. On ne se dévoile pas, on s'expose le moins possible. Mais Jésus continue à avancer. Il donne des explications. Il explique ce dont il parle. Ce n'est pas une nouvelle naissance humaine telle que tu l'as connue, c'est dans une autre dimension, à un autre niveau. Il parle de naître d'eau et d'esprit. Ça peut paraître peu clair pour nous, ça peut paraître mystérieux. On se souvient du verset Jean 3,16, mais toute la rencontre, ce n'est pas si facile que ça à comprendre. Mais si Jésus se permet d'être comme ça, pas très clair, c'est parce qu'il a des références communes avec Nicodème. Nicodème, c'est un religieux qui connaît bien les textes. Et Jésus aussi. Et là, Jésus fait référence à une prophétie du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel a prophétisé, c'est dans la Bible, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un souffle nouveau. Je jetterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les métiers en pratique. » Voilà ce que prophétise Ézéchiel. Et voilà ce à quoi fait référence Jésus. Un nouveau cœur. Un nouvel esprit. Un nouvel être, en quelque somme. Une nouvelle naissance. Voilà ce qui est nécessaire. Ézéchiel l'a dit déjà il y a longtemps. Tu le sais, Nicodème. Cette prophétie, Ézéchiel la donne à un moment critique. Les prophètes sont envoyés dans des moments difficiles, quand le peuple se perd et qu'il a besoin d'être réorienté, quand il s'éloigne de ce qu'il devrait faire, il se met dans une situation compliquée. Et les prophètes interviennent souvent pour pointer le péché, pour pointer les erreurs commises, pour pointer comment le peuple en est arrivé là. Pour pointer que, malgré ses efforts, malgré les yakas, il n'arrive pas à faire ce que Dieu veut. Et qu'il se prive des bénédictions que Dieu a prévues. Dans les prophéties, il y a donc des reproches par rapport à ça, mais il y a aussi des encouragements, comme celui qu'on vient de lire, comme cette promesse que fait Ézéchiel. Que dit ce texte ? Le peuple n'y arrive pas. Il retombe toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes faiblesses. C'est trop dur de suivre ce que Dieu demande. Alors, plutôt que de faire peser cette exigence sur son peuple, Dieu prendra l'initiative et le changera lui-même de façon miraculeuse. C'est lui qui fera le travail. Il les transformera. Il renouvellera leur être. Changera leur cœur, changera leur esprit, leur souffle, ce qui les pousse. Ce sera différent. Jésus répond que cette histoire de nouvelle naissance n'est pas fantaisiste. Le thème est déjà présent dans la parole. Celle que connaît Nicodème. Sauf que lui, Jésus, il semble en savoir plus sur le sujet. Et là, troisième réplique de Nicodème, et j'ai l'impression que Nicodème rend les armes, il tombe le masque. Et il pose une vraie question qui l'intéresse vraiment, lui. Comment cela peut-il advenir ? Il avoue qu'il ne le sait pas. Il demande, comment cela peut-il advenir ? Et Jésus explique alors, et c'est un long texte, non sans envoyer une petite pique pour commencer. Hein. Tu es chef et tu ne sais pas ça, dit Jésus. J'aime bien l'humour de Jésus. Nicodème y est allé, il l'a approché avec son statut, voilà. Nous t'avons observé, nous savons que tu viens de Dieu. Et Jésus le renvoie un peu à son attitude de départ. Mais ce n'est pas pour lui rentrer dedans, parce que Jésus ne le laisse pas là. Et il explique. Et là, le dialogue change, il devient plutôt un monologue, un discours de Jésus, un exposé. Ézéchiel avait parlé de nouvelle naissance, en tout cas de changement de cœur et d'esprit, un renouvellement de la personne. Il avait dit que ça viendrait de Dieu. Eh bien, Jésus explique le moyen, c'est arrivé aujourd'hui. Et ça se passe à travers la confiance dans le Fils unique de Dieu. Ce n'est pas un envoyé de Dieu parmi d'autres. C'est le seul envoyé de Dieu par lequel cela se passe, le Fils unique. C'est flou un peu, cette histoire de mettre sa confiance, mettre sa foi dans le Fils unique. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre sa foi en quelqu'un ? Jésus rappelle un épisode très concret de l'histoire d'Israël. Israël a fait un long voyage. À travers le désert, long voyage qu'on appelle l'Exode et qui est raconté dans les livres d'Exode, Lévitique, Nombre, et même Deutéronome, enfin, le voyage était très long. Et pendant ce voyage, à travers le désert, il est un temps où le peuple avait offensé Dieu. Il s'était rebellé contre lui, et Dieu l'a puni en envoyant des serpents. Serpents qui ont mordu plusieurs, et le peuple s'est retrouvé dans la détresse à ce moment-là. Il s'est tourné vers Dieu, a demandé pitié, et Dieu a eu pitié d'eux. Dieu a dit à Moïse, leur leader, leur guide, « Fais-toi un serpent, fabrique-toi un serpent, tu le mettras bien haut, au bout d'une perche. Et ceux qui le verront, ils seront guéris de leur morsure. » C'est ce qu'a fait Moïse. Il s'est fabriqué comme ça un serpent en bronze, il l'a mis au bout d'une perche, il l'a brandi, et ceux qui le voyaient étaient guéris de leur morsure. Ceux qui regardaient vers ce serpent en attendant la guérison, en espérant être sauvés, ou même pour voir, mais qui se tournaient vers cet objet, étaient sauvés. Et Jésus dit, c'est pareil avec le Fils de Dieu. Lui aussi sera élevé, et ceux qui tourneront les yeux vers lui seront sauvés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Dieu parle du Fils à la troisième personne. Il ne dit pas « c'est moi ». Il ne dit pas « ceux qui mettront leur confiance en moi seront sauvés ». Il parle du Fils à la troisième personne. Et en faisant ainsi, je crois qu'il invite son auditeur à se positionner. Qui est ce Fils ? Qui est celui par lequel tu peux être sauvé ? Tu peux avoir la vie éternelle, tu peux entrer dans le royaume de Dieu, être réconcilié avec lui. Qui est-il celui vers qui il faut se tourner pour y entrer ? Il va falloir chercher. Il va falloir montrer son intérêt, sortir de sa zone de confort pour s'engager. Ce n'est pas un grand mystère. Au cours des évangiles, Jésus le montre que c'est lui. Il donne tellement d'indices. Mais à un moment, personnellement, il faut faire le lien, dire les choses. Je crois que tu es le Fils et je veux regarder vers toi pour être sauvé. Voilà ce que c'est, mettre sa foi en lui, mettre sa foi dans le Fils, mettre sa foi en Jésus, lui faire confiance. S'attendre à lui pour être sauvé. Quelle conclusion à ce récit ? Le récit finit un peu en queue de poisson. Jésus fait son discours et puis plus rien, on ne sait pas. On ne sait pas ce que Nicodème en tire, par exemple. Alors pour en savoir plus, pour se faire une idée, on peut chercher des informations et on retrouve Nicodème plus loin dans l'évangile de Jean. Il était venu pour se faire une idée, pour avoir des informations, pour se positionner tranquillement. Mais Jésus vient le rencontrer, l'ébranler, le mettre au pied du mur. Il était venu en se donnant un rôle de représentant. Nous, disait-il, se cachait derrière un statut, derrière un peuple, derrière une tradition. Jésus l'implique. Tu as besoin de naître de nouveau, tu dois te positionner. Il y a celui qui croit, qui fait confiance à ce que je dis, et il a la vie éternelle, il n'est pas jugé. Puis il y a celui qui ne croit pas, et il est jugé. Il n'y a pas de position de spectateur, pas d'entre deux, tu dois choisir. Si tu prêtes attention à ce que je dis, tu dois choisir. Et le récit s'arrête là. Et je crois qu'il s'arrête là parce que il s'adresse à nous aussi, hommes et femmes du XXIe siècle. Le besoin de nous positionner personnellement reste le même. Au-delà d'une tradition, au-delà d'une famille, au-delà d'un groupe dont je fais partie. Nicodème était religieux, Nicodème était au top dans ce domaine. Il avait besoin de cette rencontre personnelle. Et c'est pour ça que pendant la présentation de Sarah, nous avons prié pour qu'elle se tourne vers Jésus, parce qu'à la fin, cette décision lui appartient. Personne ne peut le faire à sa place. Et je ne sais pas comment vous êtes venu ce matin, si vous êtes venu comme Nicodème, avec une certaine distance, pour voir, pour écouter, pour vous faire une idée, pour en savoir plus. Mais Jésus veut vous rencontrer. Il veut vous amener à vous positionner comme il l'a fait avec Nicodème. Et son message reste le même. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Une nouvelle naissance. Changer. Changer, je crois qu'on en ressent tous le besoin. On aimerait tous changer. On forme tous des résolutions pour lesquelles on fait de gros efforts. Cette année, je me mets au sport. J'arrête de regarder des bêtises à la télé pour m'intéresser à des choses plus intelligentes. Je serai moins râleur, plus tolérant. Je vais me réconcilier avec un tel. Ces résolutions nous demandent de gros efforts. Et Dieu, qui nous connaît, sait qu'on n'arrivera pas à changer complètement, même si certaines de ces résolutions tiendront, sait qu'on aura toujours cette insatisfaction sur nous-mêmes, parce que ça ne change pas le fond du problème. Nous avons besoin d'un nouveau cœur, d'un nouveau souffle, d'un nouvel esprit, d'un nouveau moteur qui nous amène là où nous devons aller. Et Dieu nous offre ce changement. Il propose la nouvelle naissance, il propose un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle façon de vivre, dans la paix, sa paix, dans la joie, sa joie. C'est celle qui donne et qui le fait découvrir. Et cette nouvelle naissance, elle passe par Jésus, pardon, par le Fils unique. Êtes-vous prêt à passer par Jésus, à placer votre foi en Jésus, votre confiance? Êtes-vous prêt à reconnaître en lui le Fils unique, le médiateur de Dieu, celui qui permet la réconciliation avec le Père? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cela. Merci parce que tu as envoyé ton Fils qui est venu, qui a accompli ce qu'il y avait à accomplir et vers qui nous pouvons nous tourner pour être en paix avec toi. Seigneur, nous ne le méritons pas, je ne le mérite pas, mais je suis dans la joie ce matin pour ce que tu as fait pour moi. Et je te prie que, aujourd'hui encore, tu touches des cœurs, et que toujours plus grand soit le nombre de ceux qui décident d'appeler Jésus, le Fils du Dieu unique, leur Sauveur et leur Seigneur. C'est en son nom que nous te prions. Amen.